Alors, notre personnage clé, c'est Patrice Allègre. Parlons un petit peu plus de ce personnage. Alors, Patrice Allègre est né le 20 juin 1968 à Toulouse. Il est le fils de Roland Allègre, releveur de compteur d'eau à Toulouse, qui deviendra CRS lorsque Patrice aura 6 ans. Dépeint comme souvent absent et très violent. Et de Michèle Salvi, coiffeuse, qui multiplie les aventures quand son cher mari n'est pas là. Aventures et liaisons sexuelles qu'elle fait voir à son fils, dont Patrice Allègre est parfois le témoin. Celui-ci n'est pas un enfant désiré, sa mère n'a que 17 ans à sa naissance, contrairement à son frère né 7 ans plus tard. Donc ses parents s'installent dans le quartier des Isards à Toulouse et sont en conflit perpétuel. Patrice Allègre, l'enfant a l'habitude de s'interposer pour défendre sa mère, qui est souvent battue, et qu'il idéalise. Et lui aussi a le droit régulièrement de subir les coups de son père violent. En 77, la famille déménage à Saint-Geniez-Bellevue. Les épisodes de violence se poursuivent jusqu'à ce que Patrice Allègre, âgé de 13 ans, menace son père de le tuer. Il fugue de plus en plus, à cette époque, passant beaucoup de temps à traîner dans la rue. Après son arrestation, il confiera au psychiatre avoir été violé un soir de fugue par 2 hommes lui ont proposé de la drogue. Rejeté par ses parents et vivant une scolarité difficile, renvoyé de 3 collèges d'enseignement secondaire, il est inscrit dans une filière de mécanique générale et confié à sa grand-mère paternelle. De retour dans le quartier des Isards, il quitte l'école en quatrième et tombe dans la délinquance, le viol et le trafic de drogue, devenant ainsi un petit truand. Son père brigadier essaie de gommer ses délits à répétition. Et il va commettre sa première agression sexuelle à l'âge de 16 ans. Ses parents se séparent en 87. Allègre vit alors du trafic de drogue et de petits boulots dans le monde de la nuit, tels que videur, disc jockey ou barman. Il finit par être engagé comme barman à la cafétéria du commissariat de police, puis au buffet de la gare de Toulouse, repérant ses proies dans le quartier de la gare. Valérie Tariotte, sa première victime, assassinée le 21 février 1989, était serveuse dans le même café. Ce prédateur urbain, selon l'expression des psychiatres qui l'ont expertisé, les séduit ces jeunes femmes qu'il a repérées, mais si elles ne lui cèdent pas, eh bien, il les viole, les étrangle et les déshabille, ne leur laissant que leurs chaussettes. En janvier 88, il rencontre Cécile Chambert, fonctionnaire d'origine bourgeoise. Ils ont une fille, Anaïs, née le 23 juillet 1989. Pendant 7 ans, ils vivent une relation houleuse qui reproduit les scènes de ménage des parents de Patrice Allègre. En 1994, il passe 8 mois de prison pour coups et blessures volontaires. Le 16 février 1995, après une nouvelle dispute conjugale durant laquelle Allègre a tout cassé dans la chambre et a jeté la petite contre le mur, sa femme obtient de la police qu'il quitte leur appartement. Il s'installera donc chez sa maîtresse Sylvie Prouillac, gérante de la discothèque Planète Rock à Toulouse. Il s'y fait embaucher comme videur, mais elle le renvoie à cause des nombreuses bagarres qui lui font perdre de la clientèle. Voici un petit peu pour son parcours. Donc son père fait jouer ses relations pour lui éviter la prison à plusieurs reprises. Et on voit que en 85, très jeune, il tente pour la première fois d'étrangler sa copine. Dealer et portier de boîte, violeur en série. Cette année-là, donc en 85, il est arrêté en avril pour le vol de mobylette. Ses empreintes digitales sont relevées. C'est aussi en 85 qu'il commence à avoir des relations avec un travesti. Par la suite, il le revoit régulièrement ainsi que d'autres travestis. Donc, grâce à son père qui le sort toujours d'affaires grâce à ses relations, il trouve un job de barman au commissariat de Toulouse. En 89, sa compagne, Cécile, a une fille, donc Anaïs, et sa maîtresse, Sylvie Prouillac, gérante de boîte de nuit. Donc, il est à noter que ses deux parents ne sont jamais venus le voir en prison. Il a avoué ne s'être arrêté de tuer que pendant 2 ans. En 94, il casse la mâchoire de Cécile, sa compagne, et c'est là qu'elle obtient donc qu'il soit retiré du domicile conjugal. En 97, Sylvie Pouillac, avec qui il vit depuis mai 95 et qu'il connaît depuis 92, le quitte en lui interdisant l'accès à la boîte de nuit qu'elle gère, Planète Rock. Elle tente de rentrer chez elle sans lui, mais il la rattrape et lui fait une scène très violente avec coups et menaces de mort dans la rue. La police intervient. En 97, un commandant de police fait une enquête discrète pour tenter d'expliquer le comportement de certains policiers vis-à-vis d'Allègre. Il retrouve les pièces de cette altercation et découvre que la police sait parfaitement à qui elle a affaire avec Allègre et surtout qu'il est fiché comme violent et comme voleur. Quand il part de chez elle, il lui prend ses cartes bancaires. Lors de sa fuite en mars 97, Allègre est à Aubenas chez son ancien amant médecin. Déçu, il quitte Aubenas, le médecin ne pouvant lui faire des casses. Ce médecin est soupçonné d'avoir été le formateur d'Allègre au trafic d'objets anciens, selon Roussel. D'après un de ses co-détenus, je cite, il connaissait ainsi aussi du monde dans le grand banditisme. On a trouvé beaucoup de personnes qu'on connaissait ensemble. Des gens qui sont aujourd'hui arrêtés et des gens qui sont en liberté. C'était quelqu'un de connu dans le milieu. Il était quelqu'un de correct. C'est pour ça qu'il a du mal à être une balance. Je sais que Patrice Allègre connaît aussi le secteur de Sète et surtout le Cap d'Agde pendant la période estivale. Il y a beaucoup de monde interlope qui travaille là-bas, avec les casinos, l'échangisme, le camp de naturisme le plus grand d'Europe. Moi aussi, je suis allée dans le secteur à cette période. On en a parlé. Allègre a plusieurs fois fait bodyguard pour les bars américains de Toulouse. Moi, j'y vendais de l'alcool. Ça a été un temps mon emploi. Je connais le fonctionnement d'un bar américain. L'un des bars où il travaillait sur le bord de la Garonne, dans une petite ruelle, a pris feu. C'était un feu criminel. Il connaissait bien ce monde dans la nuit, de la nuit et des bars américains. Le truc que je sais, c'est qu'il procurait de la bonne cocaïne pour tout le monde. Il jouait l'intermédiaire. Il achetait moins cher. Il revendait plus cher pour ces gens-là. Il fréquentait le Shanghai. Il y était connu aussi. Vous savez, quelqu'un qui a une bonne coke, il se balade dans tous les bars où on le connaît, où il fixe ses rendez-vous. Dans la même soirée, il pouvait passer dans 3, 4, 5 bars. J'ai pas de nom, mais il me disait que beaucoup de monde, par exemple, des hauts fonctionnaires, venaient dans les bars américains pour savourer du sexe. Beaucoup de monde aussi qui cherchait de la cocaïne de bonne qualité, et lui, il avait des contacts pour la drogue. Je suis persuadée qu'il a été un intermédiaire, mais il n'était pas le seul à procurer des drogues, des filles, dans des soirées un peu spéciales qui existaient à Toulouse. Il y avait une demande de filles pour des soirées sadomasochistes. Il connaissait du monde pour faire ce boulot, et ça rapporte aussi de l'argent, il en avait besoin. Il connaissait des gens bien, pas ceux qui fréquentent les bars américains, et ces gens qui avaient du sexe un peu hors du commun, du sadomasochisme, des homosexuels aussi. Il m'en a parlé dans des conversations où il essaie de me faire comprendre que tout le monde peut basculer, comme lui a basculé. Quand on a un goût pour le sadomasochisme, par exemple, on peut basculer parce que tous les jours, on veut passer à quelque chose de plus fort. Ça suffit pas de taper. Il faut faire un peu plus. Un jour, il m'a dit, je cite, si je parle beaucoup, de grosses têtes vont tomber. Je suis persuadée qu'il sait beaucoup de choses sur beaucoup de monde. Ce qu'il pouvait sentir quand il couchait avec une fille qu'il violait et qu'il tuait, il ne pouvait pas le ressentir avec une fille avec qui il couchait normalement. Et ça, périodiquement, ça lui manquait. Ça lui donnait à nouveau l'envie de goûter à cette espèce d'extase que lui procurait le mélange de drogue et de tout le reste. Parce qu'il m'a expliqué qu'au moment où il commettait ses crimes, il prenait une espèce de cocktail Molotov de différentes drogues. De la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy, du haschich, de l'alcool. Il avait envie d'arrêter, mais c'était plus fort que lui. Après une période, il avait un manque. Il fallait qu'il le fasse encore une fois. Il ne m'a pas dit s'il a commis d'autres crimes. Il m'a expliqué que les enquêteurs cherchaient à lui mettre sur le dos beaucoup de crimes non résolus qu'il n'a pas commis. D'après Patricia, Allègre était lié au clan Perletot dans le Var. L'été 91, Patricia s'est prostituée dans un bar de Saint-Laurent-du-Var, grâce à Franck Perletot, sur recommandation d'Allègre. D'autres témoignages corroborent ces affirmations. Perletot était l'un des adjoints de Francis le Belge, tué en 2000. Or, l'avocat de Fanny, en 2003, n'était autre que le ténor varois Jean-Claude Guidicelli, a été l'avocat de Franck Perletot, ou encore l'un des assassinats de Yann Pia. Vu les finances exsangues de Fanny et que les ténors ne prennent pas l'aide juridictionnelle, on se demande pourquoi Guidicelli a accepté de travailler presque gratos. À ce moment, Allègre s'est trouvé en tôle avec un des bras droits de Perletot. Et c'est là qu'il s'est isolé totalement et s'est rétracté. Mihier aurait conseillé à Allègre, qui en principe était au secret, de changer sa stratégie de défense. C'est lui qui a suggéré de prendre Collard comme avocat. Mais Collard n'a jamais été l'avocat de Mihier, contrairement à ce qu'a dit Collard. Le 17 juin, Allègre écrit à Collard, donc. Le lendemain, c'est au tour du nouveau procureur général de la cour d'appel de Toulouse, Michel Barrault, de recevoir un courrier signé Patrice Allègre. La dépêche du Midi révèle l'existence de cette correspondance, d'abord démentie par Michel Barrault, puis confirmée le 19 juin. Entre-temps, la lettre est partie pour avis à la chancellerie. Plus surprenant, le tueur en série, qui affiche un niveau scolaire pour le moins modeste et de grosses lacunes en orthographe, cite au passage, selon la dépêche, un extrait de « L'homme révolté » de Camus, l'écrivain préféré de Raymond Mihier. C'est après l'arrivée de Guidicelli que Fanny a déclaré n'avoir jamais rencontré Baudis. Bourraguet était ami avec le procureur Cubiec, camarade de promotion de Pierre Roche. Selon les enfants Roche, tous les magistrats cités dans l'affaire Allègre se connaissaient très bien et étaient aussi proches de Pierre Roche, donc Wolf et Ignatio. Concernant Marc Bourraguet, membre fondateur de la Sauvegarde 31, l'association qui a eu en charge le placement de Fanny, puis celui de ses enfants, ainsi que de plusieurs jeunes prostituées prises dans le milieu toulousain. Entré au palais de justice de Toulouse en 1989 jusqu'en 1992, quand il part à Montauban comme procureur adjoint. Il représentait le ministère public au tribunal de commerce de Toulouse. C'est à cette époque que Guigou lance une inspection générale des services au TGI et Bourraguet est dans la ligne de mire. En 1991, Allègre a pris l'apéro chez lui en compagnie de Gilles Bivy. Bourraguet dit qu'il a coupé les ponts avec Bivy en 1997. Différents PV attestent que plusieurs témoins, à des moments différents, les ont vus ensemble. Au relais de Fonds-Beaux-Arts, anciennement le Mariel. Sur PV du 10-08-2004, MP, propriétaire du relais de Fonds Beaux-Arts, dit avoir vu à la même table Allègre, Bivy et Bourraguet, et notamment lors d'une fête du Beaujolais Nouveau. Sur PV du 19 août, DM, client du Mariel, se souvient avoir vu Bourraguet au comptoir avec Patrice et ajoute « Ce sont des gens qui donnaient l'impression de bien se connaître ». Riyad Kouka, ancien restaurateur, affirme avoir surpris des visites d'Allègre au domicile de Bourraguet. De plus, le patron de Fanny, quand elle travaillait au restaurant La Venise, un certain Kouka, a affirmé au juge qu'il avait vu Fanny en compagnie de Bourraguet, selon le rapport Bréard. Au début des années 90, un policier municipal a verbalisé la voiture de Bourraguet devant une maison de Launaguet lors d'une réunion de truands. Je cite « Les gendarmes de la section de recherche m'avaient dit que ces individus étaient des braqueurs et que parmi eux se trouvait un nommé Gilles Bivy. En 96, il a failli passer en correctionnel pour avoir fait faire des travaux au noir chez lui pour la Sautram à laquelle le fisc s'intéressait. La Sautram était alors dirigée par l'ancien trésorier de Sauvegarde 31. Le dossier a été classé sans suite. » Plus l'affaire des travaux chez Bourraguet par la Cofitech vers 90-91. Le rapport Bréard révèle aussi les marchandages autour de la discothèque Le Saint-Georges et la licence 4 de cet établissement, apportée par M. T, un ami de Bourraguet, membre lui aussi de la sauvegarde 31. En 98, à propos de l'affaire Escoulant, grande firme toulousaine, le juge d'instruction Laurent Niou reproche à sa greffière de communiquer des pièces Bourraguet qu'il n'a aucune fonction officielle. Et l'IGSJ enquête. Bourraguet finit par avoir une promotion. En janvier 2001, une lettre anonyme arrive au cabinet du juge Nion, le dénonce comme étant au centre d'un pacte de corruption impliquant Jean-Marcel Lavergne, un administrateur judiciaire de premier plan, mis en examen et incarcéré en novembre 2000. Il s'agissait du redressement judiciaire de la société Escoulant, basée à Tournefeuille, près de Toulouse, une grosse entreprise de distribution régionale qui a déposé son bilan en 92. Des accusations graves qui n'ont jamais été vérifiées. Les anciens présidents du tribunal de commerce ont pointé un certain nombre de procédures dans lesquelles la position de Marc Bourraguet en tant que substitut chargé des affaires financières pose problème. La SARL Sofabat, le Cristal où Allègre aurait été employé comme portier, la SARL Scaravetti, la SARL Les Compagnons, dont le siège est au restaurant Le Belvédère. Il confirme que Bourraguet avait table ouverte dans ce restaurant, propriété d'AF. Or, les sociétés d'AF, qui étaient en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'une ordonnance de dépaysement au tribunal de Montauban, où Bourraguet est vice-procureur depuis 2002. Fanny a dit qu'elle a été sa maîtresse quand elle était encore mineure, et qu'elle lui a volé des vidéos compromettantes. Elle les aurait cachées en compagnie de Claude Martinez, un autre travesti de la région de Biarritz. Bourraguet aurait cherché à racheter ses vidéos. Il y a aussi un témoignage particulier, celui d'une prostituée appelée Marie Tiblemont, qui a déclaré sur PV que Bourraguet avait des demandes spéciales, comme se faire uriner dans la bouche. Mais cette femme était aussi, semble-t-il, membre du comité de soutien à Dominique Baudis. Pourtant, son témoignage est diffusé dans Paris Match. Alors qu'il était substitut au parquet financier, il s'est rendu sur les lieux du meurtre d'Edith Schléchard et de Lynn Galbardi avant l'arrivée de la police. En juillet 2007, Bourraguet n'avait encore été entendu que comme une victime, jamais comme témoin ou coupable. Il a dit qu'on s'en prenait à lui car il avait attaqué des francs-maçons. Oups. Sous-entendant qu'il n'en est pas un. Eh oui. Dans son rapport, essentiellement tourné sur le cas Bourraguet, l'auteur s'étonne que Bourraguet ait instruit lui-même un dossier pénal le concernant sans que cela ne pose problème au parquet de Toulouse. Penchons-nous à présent sur Dominique Baudis. Dominique Baudis, ancien député maire de Toulouse et président du CSA au moment de l'affaire. Il est aussi le fils d'un ancien maire de Toulouse. Maire de Toulouse lui-même, de 1982 à 2001, élu à chaque fois au premier tour avec 56% des voix. C'est Douste Blasi, dont il était le parrain politique, qui lui succède avant d'aller au gouvernement. Ces agendas n'ont jamais été saisis par les juges malgré plusieurs demandes en ce sens. Il a fait surveiller Douste de très près en réclamant qu'il le soutienne de manière ostensible. Il lui reprochait aussi de ne pas l'avoir informé de sa mise en cause dans l'affaire Allègre. Selon Baudis, Douste et quelques autres propageaient des rumeurs à son sujet via la Dépêche du Midi. Et tout cela n'est qu'une cabale orchestrée parce que Baudis, président du CSA, s'en était pris à la pornographie à la télé, lui qui rentre chez lui tous les soirs pour rester avec sa tendre épouse. Il y avait en revanche un groupe pro-Baudis autour du député Jean Diebold. D'après Patricia, il se faisait surnommer Nénette lors des séances sadomaso, dont une s'est déroulée à l'Hôtel de l'Europe et une autre chez Messaouden. Nénette, comme c'est mignon. On apprend grâce à des indiscrétions que de mystérieuses réunions tenues entre Barrow et Père Ben ont permis de mettre au point une tactique. Il faut d'abord combattre les fuites judiciaires de manière à arrêter l'hémorragie. Puis, mais c'est au conditionnel, il faut décrédibiliser les témoignages des anciennes prostituées. Cela a d'ailleurs commencé avec la rancobolesque attaque de Baudis contre l'industrie du porno. Deuxième volet, affirmer que ces pauvres filles ne sont en définitive que des prostituées. Eh bien oui. Et merci au passage pour l'égalité des citoyens. On se demande d'ailleurs à Toulouse qui a bien pu égayer le travesti Jamel, témoin totalement improbable vers les caméras de TF1. Au sujet de sa nomination, de la nomination de Baudis au CSA, l'association Stop à l'oubli se disait scandalisée et a écrit, je cite, « Ce que nous lui reprochons avant tout, ce sont ses mensonges lors de son intervention télévisée du 18 mai 2003, lorsqu'il a expliqué n'avoir jamais eu de lien avec le milieu du proxénétisme et de la prostitution. Or, ses propos ont été démentis par des écoutes téléphoniques parfaitement légales, puisque exécutées à la demande de la justice dans une affaire de proxénétisme qui n'avait rien à voir avec l'affaire Allègre et révélée par l'hebdomadaire VSD le 22 mai 2003 sous le titre « Le document qui dérange ». Il est en effet incroyable que les autorités aient hésité entre Dominique Baudis et Jack Lang à occuper ce poste. Cela montre en tout cas dans quel type d'état nous vivons. Concernant Dominique Baudis, Paul-Émile Charlton, qui a enquêté sur plusieurs affaires dans le sud de la France, dont celle-ci, a posé une question interpellante. Il a demandé ce qu'il en était de cette histoire de cadavre retrouvé dans une malle dans le coffre du véhicule de Dominique Baudis. Renseignements pris, des témoins ont déclaré qu'un soir où Baudis avait demandé qu'on lui amène sa voiture en urgence, le chauffeur, qui avait senti une forte odeur, avait regardé dans le coffre et retrouvé ce cadavre. Hélas, cette histoire, à la lumière de toute l'affaire Allègre, ne semble pas forcément invraisemblable, et la justice dispose des informations et contacts pour aller plus loin, bien avant le décès de Baudis. Il semble aussi que Michel Roussel a été informé de cette histoire et Paul-Émile Charlton a donné le nom de la victime qui était propriétaire de plusieurs établissements de nuit à Toulouse, dont le Bacchus ou le Van Gogh, et qu'on avait retrouvé mort dans l'appartement au-dessus de l'un de ses bars. Penchons-nous à présent sur le témoignage des enfants du juge Roche, sur les propos tenus par leur père, procureur à Toulouse. Il nous a parlé d'un groupe secret relativement informel, basé dans la ville de Toulouse, où il a exercé, auquel il avait eu le malheur d'appartenir et dont il semblait impossible de sortir. Ce groupe rassemblait des personnalités de la bonne société, haut placées, dans différentes sphères. Notre père a certes mentionné le monde judiciaire où l'on recrutait, paraît-il, beaucoup, et pas seulement parmi les magistrats, puisque même certains hauts dignitaires de la police étaient considérés comme des recrues de choix. Mais à l'entendre, étaient aussi concernées des sphères aussi différentes que la politique, la finance ou encore le monde médical, et plus généralement des gens qui comptent dans le secteur les plus divers. Ainsi y aurait-il eu parmi les participants, et pour prendre qu'un dernier exemple, quelques universitaires. Il ne serait pas rare que ces soirées dégénèrent pour finir pour déraper complètement, cela parfois par un accident non anticipé et d'autres fois de manière parfaitement préméditée. Il y a apparemment des sortes de cérémonies animées par un célébrant, comme s'il s'agissait d'une secte où l'on ne sait pas trop quel culte. C'est au cours de ce genre de soirée que sont pratiqués des sortes de rituels allant du sacrifice d'un animal à l'homicide pur et simple. C'est en tout cas ce que notre père prétendait avoir vu de ses yeux, en passant par d'autres joyeusetés telles que la scarification de l'adepte. Notre père nous expliquait que les proies du groupe en question étaient toujours sélectionnées parmi les couches les plus isolées de la population et les catégories des gens les moins susceptibles de causer un quelconque émoi ou d'attirer une quelconque attention en cas de volatilisation pure et simple. Ce qui revient à dire que, sauf pêche miraculeuse, nos tortionnaires en col blanc n'avaient pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent que des clodos, c'est une citation de notre père, des prostituées, parfois mineures, nous a-t-il précisé, et dans un certain cas, des étrangers en situation irrégulière, y compris des enfants. Snuff Movie, parlons-en. Sur un plan plus périphérique, notre stupéfaction fut à son comble lorsque notre père évoqua devant nous le spectre d'un trafic de vidéos illégales s'échangeant sous le manteau à des prix astronomiques et dont le sujet était l'humiliation, bientôt suivie de la torture et de la mise à mort du premier rôle bien involontaire. Le père Roche a créé un site internet avec des photos porno de sa deuxième épouse, une prostituée, et a cherché à accuser ses enfants de l'avoir fait. L'affaire a intéressé les médias en 2002, mais grâce à Baudis, alors patron du CSA, il a obtenu que personne n'en parle. Perben a assuré l'impunité au père Roche. Il a nommé Barreau dans l'affaire Allègre et lui demande tout de suite de demander une instruction sur le non-respect du secret de l'instruction, si bien que Montebourg a carrément accusé Perben de chercher à étouffer l'affaire. Perben a refusé de répondre à deux questions parlementaires sur son rôle dans l'affaire Allègre. Lors d'une confrontation, le 12 mai 2003, Patricia a demandé à Allègre « Et Perben, tu te souviens ?» Mais la phrase ne figure pas au PV. Continuons avec Philippe Douste-Blazy. À Toulouse, Douste-Blazy était le poulain de Baudis. En 2004, il est mis en cause par Patricia. Je cite. Lors de ses dépositions mettant en cause Dominique Baudis, Patricia a également cité le nom de deux autres élus, Philippe Douste-Blazy et André Labarrère. Le 13 février 2003, l'ex-prostituée affirme avoir vu passer des mallettes remplies de billets de 500 francs. Une fois, une mallette était destinée à chaque député maire, Dominique Baudis et André Labarrère, affirme-t-elle avant d'évoquer un réseau de proxénétisme régional. Le mois suivant, devant les gendarmes, l'ancienne prostituée parle de soirées très spéciales avec Dominique Baudis et Philippe Douste-Blazy. Concernant ces élus, elle assurera devant les enquêteurs qu'ils avaient acquis une garçonnière à Tarbes, puis parlera d'un château acheté en commun près de Lourdes. Après, André Labarrère et Philippe Douste-Blazy n'ont jamais été entendus dans ce dossier, évidemment. Puis elle serait revenue sur ses accusations concernant Douste-Blazy et Labarrère. À un moment, on m'a dit que c'est Douste-Blazy qui filait des infos à Jean-Michel Bellet de la Dépêche pour enfoncer Baudis. Au sujet de Douste-Blazy, on peut ajouter que son ex-compagne, productrice à France 2, est venue sur le plateau de Laurent Ruquier il y a un an ou deux afin de jurer qu'il ne s'était jamais rien passé à Marrakech. Il serait également le ministre cité par Luc Ferry comme s'étant fait poisser à Marrakech dans une partousse avec des gosses. Zut. Aujourd'hui, il travaille à l'ONU. Le livre de Fanny. Fanny, l'une des prostituées qui se sont retrouvées dans la ligne de mire des médias, a écrit un livre intitulé « Mes nuits noires dans la ville rose ». Publiée en 2004 pour raconter comment elle a vécu toute cette affaire. Du moins, après la censure d'une dizaine de pages mettant en cause Marc Bourraguet, qui a également demandé le retrait de la vente. Ah oui. À lire ce livre, on comprend toute la douleur de cette jeune femme quand elle dit, je cite, « Ma vie est détruite pour avoir aidé la justice ». Pourtant, le gendarme Roussel, qui l'a persuadé de parler, lui avait dit que tout irait bien. Je cite, « Je lui en veux, car il nous a abandonnés en chemin », dit-elle de lui. En juin 2005, Fanny et Patricia ont été privées de tout droit civique pendant 5 ans et condamnées à 3 ans de prison ferme pour complicité de témoignages mensongers dans le volet de Jamel du dossier proxénétisme de l'affaire Allègre, nous dit Le Monde. Jamel est ce travesti, lui aussi suicidé dans les mois suivant ses déclarations, le 20 septembre 2003, qui avait parlé de la présence de Dominique Baudis à des parties sadomaso, qui avait aussi cité Nicolas Sarkozy comme étant présent aussi, et qui disait avoir vu là-dedans la petite Marion Wagon, disparue en 1996. Et en mars 2009, Patricia et Fanny ont été condamnées respectivement à 3 et 2 ans de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse envers Baudis et Bourraguet, avec en prime 2 ans de mise à l'épreuve au cas où elles auraient envie de reparler de cette affaire. Dès le 11 juillet 2005, un des avocats de Dominique Baudis, maître Serge Didier, a annoncé un prochain dépôt de plainte avec constitution de partie civile, pour savoir qui est à l'origine de cette saloperie. Il avait ajouté qu'une action pour dénonciation calomnieuse s'était engagée si le tribunal correctionnel condamnait les deux jeunes femmes dans le dossier Jamel. En tout cas, Baudis a été totalement blanchi, puisqu'il s'est retrouvé au poste de défenseur des droits. En 2008, c'est Carl Zéro qui est mis en examen par la cour d'appel de Paris, puis renvoyé en correctionnel pour avoir lu la lettre que lui avait écrite Patrice Allègre à l'antenne du Vrai Journal le 1er juin 2003. Dans cette missive, ce dernier reconnaissait les meurtres d'une prostituée et d'un travesti et désignait le magistrat Marc Bourraguet et Dominique Baudis, alors président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme les commanditaires de ce dernier assassinat, nous explique Mediapart. Il est finalement relaxé en novembre 2012. Fanny a donc décidé d'écrire un livre pour raconter son histoire. D'après Alain Vidal, ce qui est écrit est vrai. Si elle a parlé, c'est parce que le gendarme Roussel ne l'a pas lâchée pendant plusieurs mois. Fin 2002, Fanny s'installe à Lyon, de Lyon à Toulouse avec sa famille, alors qu'elle vient d'avoir son 5e enfant. Durant l'hiver 2002-2003, elle subit de nombreuses interrogations étalées sur 5 mois. Roussel lui promet de la soutenir jusqu'au bout de la procédure, car Fanny sait très bien, et mieux que le gendarme, qu'on fera tout pour empêcher l'affaire d'éclater. Dans son livre, Fanny, née en 73, raconte qu'elle a été confiée en 1981 à un organisme qui l'a placée dans un foyer. Cet organisme a toujours refusé qu'elle conserve son dossier, dont il manque plusieurs pièces. Son histoire est donc un peu floue. Elle a très vite commencé à tapiner. Sa mère lui demandait de se prostituer quand il manquait de l'argent. Moche. En 77, sa mère demande au juge de la confier, ainsi que sa sœur, à une institution religieuse à Isis, dans la banlieue de Toulouse. Leurs frères y sont envoyés ailleurs. Quand elle rentre parfois dans sa famille, le week-end, les maltraitances sont la norme, puis elle commence à fuguer. Puis, à l'âge de 8 ans, on vient la chercher, on la sépare de sa sœur et on l'envoie dans l'organisme évoqué plus haut. Quand elle est enfin placée dans une famille où les choses se passent bien, sa mère demande de l'envoyer ailleurs. À 12 ans, elle continue ses fugues. On lui reproche de se droguer et elle est internée dans un hôpital qui a brûlé en 2001 et où plusieurs de ses collègues du dortoir sont également passés. Venue pour une simple consultation, elle y restera 6 mois et passe des heures en cellule capitonnée. Heureusement pour elle, elle fait mine de prendre ses cachets. Elle retourne dans un foyer de la DAS dans l'Aveyron d'où elle fugue à nouveau. Un responsable, qu'elle appelle Cobra, a signé pour qu'elle aille dans ce foyer. Finalement, elle tombe sur une famille où elle se sent à nouveau bien. Ces gens veulent même l'adopter, mais cette demande est refusée, sans qu'elle sache pourquoi, puisque ses pièces ne figurent pas dans son dossier. Puis elle est encore transférée et se retrouve à 15 ans dans un foyer en plein cœur de Toulouse, entre la Garonne et la place du Capitole. En face, il y a le bar d'un certain M, grand ami de Cobra. Dans ce foyer, il y a une douzaine de filles âgées de 15 à 18 ans qui vivaient chacune dans un studio équipé d'une petite cuisine. Le vice, c'est qu'on leur donne que 50 francs par semaine pour vivre, ce qui est impossible à tenir si bien que les filles magouillent ou tapinent. Puis elle tombe sur son frère en 87. Il traîne dans le quartier de la gare de Matabio, où traîne aussi un certain Monsieur Troyes, la quarantaine, qui lui dit qu'il est directeur d'une grosse entreprise et lui lâche quelques billets de 50, 250 francs. Au début, il ne couche pas avec elle, il la met en confiance. Il s'agit de l'Agdar Messaouden. Pendant ce temps, son frère rencontre Patrice Allègre et Fanny le rencontre au Café Noir à Matabio. Ils se rapprochent car ils ont un passé similaire. Il a 4 ans de plus qu'elle, mais le courant passe bien. Des années plus tard, Fanny analyse que déjà à l'époque, les jeunes types du quartier de la gare servaient de rabatteurs à Monsieur Troyes et qu'ils présentaient les filles du foyer. À 17 ans, elle croise souvent les flics dans ce milieu. Petit à petit, Monsieur 3 l'emmène dans des hôtels, couche avec elle et lui donne de l'argent. Puis il l'envoie chez un homme pour faire tout ce qu'il te dit et ne discute pas. Parfois, il arrive à Fanny de faire des passes au foyer pour éviter aux plus jeunes de devoir taper. Les clients sont envoyés par Monsieur 3, des notables, des cadres. Monsieur 3 garde presque tout l'argent qu'elle lui remet, soit 4 000 à 6 000 francs par semaine. Plus tard, quand elle ne gagne pas assez, Monsieur 3 la fait frapper par Allègre ou par un ami flic. Le soir, ils vont au restaurant avec Monsieur 3, Allègre et sa bande de copains, flics. Au début, il y a une bonne ambiance, puis les choses changent, ça se tend. À cette époque, Fanny sert à Monsieur 3 à signer de gros contrats, mais elle le voit moins et il lui amène des clients de plus en plus spéciaux, tout en lui prenant maintenant tout l'argent qu'elle gagne. Du coup, elle trouve ses propres clients et met de l'argent de côté. Elle n'a alors même pas 18 ans. Les flics l'arrêtent et l'affichent comme prostituée mineure. C'est bizarre, écrit-elle. Parce que d'un côté, je les fréquente et de l'autre, ils m'arrêtent. Très vite, ces mêmes flics lui demandent de leur payer une taxe d'environ 1 500 francs par semaine, comme ils le font avec toutes les prostituées. Et elle est parfois violée au passage. Elle rencontre pas mal de filles, dont Patricia. Allègre est chargée de les corriger, y compris Fanny. Monsieur 3 la fait surveiller à longueur de temps, et quand elle gagne un peu moins d'argent, elle se fait tabasser. Fanny a pu constater qu'Allègre n'a jamais payé une seule contravention de sa vie et qu'il n'était jamais embêté pour ses nombreux casses. Alors, qu'en est-il de ces fameuses soirées toulousaines? Monsieur 3 lui présente ainsi aussi celui qu'elle appelle Cobra. En réalité, il s'agit de Marc Bourraguet. En haut, un haut fonctionnaire bourgeois qui, au début, se montre plutôt gentil quand il vient la voir au foyer. Où, décidément, les allées et venues d'un monsieur d'un âge respectable ne semblaient déranger personne. 3 mois plus tard, il lui demande de coucher avec elle. Avec lui, pardon. Puis il lui demande de l'accompagner à des soirées. C'est le roi des pervers, écrit-elle. Mais cela, elle ne se rend compte que plus tard. Elle devient donc son accompagnatrice des notables pervers. Amateur d'une boîte échangiste appelée le Quai des Brumes, un des QG de Cobra également, ou encore d'un hammam libertin appelé les Vapeurs, et ailleurs encore. Il y avait aussi, explique Fanny, les soirées à la maison de Noé, qu'elle appelle la maison de la base, au bord d'un lac qui sera partiellement comblé pour faire passer une autoroute, dans un village situé à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Autour de cette maison, il y a un parc paysager avec une petite forêt. Elle savait qu'il se passait des choses lourdes au premier étage, mais elle ne s'en occupait pas. C'est juste ce qu'on lui avait dit. Petit à petit, Fanny se rend compte qu'elle est en danger de mort dans ce milieu. Un soir, elle cherche Allègre, et c'est dans un hôtel qu'elle le trouve, dans une chambre, assis sur une fille en lui tenant un oreiller sur la tête. Elle s'enfuit, mais quand elle le recroise, il lui tailla de la main pour la dissuader de parler. Fanny se rend alors au commissariat pour porter plainte, la tête en sang, la main coupée. Le flic commence par prendre sa déposition, puis la met à la poubelle quand elle cite les protagonistes. À ce moment, Fanny va avoir 18 ans, elle doit quitter le foyer. Mais elle obtient une dérogation car elle est enceinte. Elle explique d'ailleurs que c'est seulement lors de son troisième avortement qu'elle a appris comment on tombait enceinte. Quant à voir qui est le père, c'est difficile entre ses clients et tous ceux qui la violaient, comme Cobra, Monsieur 3, etc. Cobra, qui était donc ce magistrat cofondateur du Sauvegarde 31, l'organisme chargé de placer les enfants, lui aurait même dit, je cite, Vous, les putes, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants. De toute façon, ils ne vous appartiennent pas. Ils sont à la justice dès la naissance. Charmant. D'ailleurs, l'enfant est rapidement placé suite à un rapport de l'assistante sociale à la DAS. Suite à ce placement, Fanny est effondrée. Elle ne peut voir l'enfant qu'en point rencontre, en présence d'un éducateur. En parallèle, de plus en plus de prostituées disparaissent dans la région, même de très jeunes filles. Fanny apprend que des filles se font enfermer dans un cabanon à la maison de Noé et qu'après cela, elles mettaient des semaines à s'en remettre. D'autres étaient enfermées dans le grenier situé en haut de la tourelle qu'on appelait la chapelle. Un soir, Fanny raconte qu'elle est montée au premier étage et qu'elle a vu Cobra attacher une gamine à des anneaux ou des crochets fixés dans le mur. La gamine ne se débattait pas, ne disait rien. Fanny était sûre que c'était une enfant, car sa poitrine n'était pas du tout développée, et elle pense qu'elle devait avoir 12 ou 13 ans. C'est là qu'elle a compris qu'il y avait d'autres mineurs dans ces soirées. Elle retourne dans cette maison la semaine suivante. Là, elle voit beaucoup de filles très jeunes qu'elle ne connaît pas. Ce soir-là, elle dit à Cobra qu'elle l'a vue avec la gamine la semaine précédente. Alors il la fait monter au premier étage avec le flic, puis au grenier où il l'attache à une poutre pendant 24 heures. Il la laisse enfermée là-haut pendant une semaine. De plus en plus, elle voit des filles revenir défoncées de leur soirée avec ces messieurs de la haute. Un soir, alors qu'elle est chez Cobra, elle se met à fouiller pour tenter de savoir ce qu'il se passe. Elle trouve une petite mallette qu'elle embarque. Dedans, elle trouve des photos de gens connus dans des positions compromettantes et divers documents. Fanny entend parler de plusieurs meurtres de filles déguisées en suicides, de tortures grassement payées par de riches pervers, de prostituées insoumises qu'on enferme dans des baraques de chantier pour être violées par des dizaines de types chaque jour, tout en étant droguées. Certaines, pardon, étaient utilisées ainsi pendant plusieurs semaines avant d'avoir une overdose. Fanny a assisté au meurtre de Lynn Galbardi le soir du 3 janvier 1992 à l'hôtel de l'Europe face à la gare Matabiau. Ce soir-là, Fanny est avec un client, un vieux qu'elle aime bien. Dans la chambre d'à côté, elle entend une importante dispute. Des cris, des coups, des gémissements allant crescendo. Elle entend parler de cam, de déposition, de meurtre. Elle va donc voir ce qu'il se passe car elle sait que l'homme qui se trouve dans la pièce est un sadique. Lynn a assisté à un meurtre et s'est mise à insulter son souteneur. Une troisième prostituée est présente, allègre les fausses forces à assister à la mise à mort. Dans la pièce, elle voit Lynn Galbardi en sang, à moitié nue, l'air hagard. C'est là qu'elle la reconnaît. Allègre la frappe à coups de poing au visage. Il la défonce littéralement, la viole tout en souriant. Il quitte la chambre 3 quarts d'heure plus tard et Fanny se rend dans la chambre où elle voit Lynn sur le dos. Là, Allègre, Messaouden, le souteneur de Lynn et la troisième prostituée remontent et mettent le corps dans la salle de bain. Quelques jours plus tard, Fanny est convoquée chez les flics. Celui qu'elle appelle le faux arrive dans le bureau où elle est entendue. Et les flics demandent à savoir ce qu'elle a vu le soir du 3 janvier à l'hôtel de l'Europe, à quoi elle répond qu'elle n'a rien vu. Le faux dit de l'attacher au radiateur et Fanny crie qu'elle a tout vu et qu'elle va tout balancer. Du coup, la faux la viole pendant la fouille et la met en garde à vue. Le lendemain, il lui dit de quitter Toulouse et que l'affaire est classée. Concernant le meurtre de Claude Martinez. Un soir où Fanny se trouve à la maison de Noé en compagnie de Cobra, Patricia, la faux et d'autres, Cobra reçoit un coup de fil d'Allègre qu'il met sur haut-parleur. Elle entend Allègre parler de vidéos compromettantes de lui avec des passages sadomaso qui pourraient ruiner sa carrière. Il dit qu'une certaine Claudia, un travelot, aimait bien filmer les partouzes. Claudia, c'est Claude Martinez, et Fanny le connaît bien, puisque c'est avec lui qu'elle planquait la mallette avec des photos de partouzes volées chez Cobra. Bref, on compte sur Pat et la faux pour se charger de cette affaire bien embêtante. 92, c'est l'année où Cobra devient véritablement le tortionnaire de Fanny. Elle n'est plus à ce moment-là sous la coupe de Monsieur Trois et pas sous celle de Cobra. La violence devient telle, même pour Fanny qui est habituée, qu'elle le fuit. Alors il fait rechercher par les flics et amener dans son bureau au tribunal, où il la viole et l'humilie devant les flics qui regardent. Toujours en 92, Fanny se rend chez Monsieur 3 pour une séance particulièrement crade et il réclame qu'elle lui donne 4 à 6 000 francs par semaine, en plus de l'enveloppe qu'elle donne aussi à la faux. Dans la soirée, Fanny est emmenée en voiture avec Allègre, Monsieur 3 et Cobra et la faux, qui l'emmènent dans un coin où il la frappe partout et la viole. À la fin de la séance de torture, elle saigne de partout et n'a plus du tout de force. Elle va ensuite à l'hôtel avec Monsieur 3 qui la viole à nouveau. Elle mentionne une fois où elle a essayé de parler à quelqu'un et où elle a encore fini à l'hôpital psychiatrique où on l'a gavée de cachet. Elle n'a pu en sortir qu'après avoir dit qu'elle avait tout inventé. Alors, gendarme Roussel contacte Fanny. Fanny quitte la région de Toulouse suite à ces violences de plus en plus graves et fréquentes. Durant l'hiver 2002, alors qu'Allègre est en prison depuis bien longtemps pour divers meurtres, le gendarme Roussel contacte Fanny. Très vite, elle reçoit des menaces de la part de la faux, Cobra et d'autres, se fait encore une fois massacrer. Elle est suivie près de chez elle, alors qu'elle vit à plusieurs centaines de kilomètres de Toulouse. Le 18 mai 2003, elle voit Baudis qui s'épanche sur le plateau du JT de France 2. Tout de suite après, il y a eu le témoignage de Jamel qui aurait appartenu au milieu. En même temps qu'elle, écrit Fanny, qui précise que pourtant elle ne le connaît pas. Fanny vérifie quand même auprès d'anciennes collègues de trottoir, mais personne ne le connaît non plus, et Fanny pense qu'il ne se trouvait pas à Toulouse de 92 à 93. Véritablement, Jamel est arrivé au point nommé pour décrédibiliser toute l'affaire, disant par exemple qu'il était le fils caché de Michael Jackson. Le dénommé Jamel s'est très vite suicidé après être intervenu dans l'affaire. Elle constate aussi qu'au moment du scandale sur les notables toulousains, l'avocate de Patricia, son ancienne collègue, multiplie les interventions médiatiques. Il y a aussi cette émission de Carl Zéro dans laquelle il lit la lettre d'Allègre et Fanny dit qu'elle reconnaît son écriture. La suite, on la connaît. Fanny, comme elle le craignait depuis le départ, a payé très cher le fait d'avoir parlé. Comme elle le craignait dès le départ, elle s'est retrouvée seule à se débattre dans des procédures sans fin. Même son frère l'a poursuivie pour son livre, mais elle a été relaxée. Ses enfants ont été placés, elle a été envoyée en prison, tabassée, menacée. Si l'on était encore dans un état de droit, on se serait indigné de voir Dominique Baudis mis en balance avec Jack Lang pour occuper le poste de défenseur des droits des citoyens français. Que veut dire une telle nomination ? Quand on recense les manquements et les mensonges dans l'affaire Allègre, notable toulousain, une claque aux victimes ? La revendication de vivre dans un état népotiste ? La toute-puissance des pervers ? Je vous laisse le soin d'interpréter les choses. En tout cas, il reste presque 200 meurtres non élucidés dans la région toulousaine, de nombreux pervers impunis et tout un système qui n'a pu que perdurer face à l'impunité qui fut la sienne. Une impunité assurée, la main dans la main, par une classe politique vérolée et une justice tout aussi vérolée. La conclusion, pour le citoyen lambda, est simple. Il faut faire table rase de ce système, lâcher la République et construire une véritable démocratie. En tout cas, on pourrait bien reparler de cette affaire très bientôt.